Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Air Dubois et c'est l'heure de l'interview au studio. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Armelle Babin. Bonjour.
Bonjour.
Armelle Babin, vous êtes chanteuse, chef de chœur aussi de l'Embellie. C'est un chœur féminin basé à Die et vous êtes ici pour nous annoncer également une date qui s'agira d'un concert le 24 mai à 19h au Temple de Poney avec des chants autour de la Vierge Marie du Moyen-Âge à nos jours. Il y aura l'occasion d'écouter divers morceaux, des chants de pèlerinage, de traditions séfarades ou avec l'Ave Maria, des berceuses et madrigaux. On pourra peut-être expliquer ce que sont ces mots. Monteverdi, Mozart, Kodaly, Britten, Emery et Jello. Donc des artistes d'une certaine époque. C'est voulu ça ou alors c'est parce que c'est cette période-là qui a été la plus propice dans ces chants voués autour de cette Vierge Marie?
Alors déjà, c'est un ensemble féminin composé de 8 chanteuses et moi, chef de chœur. Et on cherche donc un répertoire pour chœur féminin, c'est-à-dire une voix de soprano, une voix de mezzo-soprano et une voix d'alto, parfois à 4 voix. Il y a 2 voix supérieures et 2 voix plus basses. Et comme nous sommes un petit effectif, évidemment, je privilégie plutôt le 3 voix, c'est-à-dire les chanteuses sont 2 ou 3 par voix. Donc dans ce répertoire existe depuis le Moyen-Âge. Alors je vais expliquer pourquoi ce choix. Déjà le thème de la Vierge Marie ou de la berceuse, si on élargit, en référence à la nativité. Voilà, c'est le thème qui m'a inspirée cette année. Et j'aime beaucoup, moi, faire des rencontres d'époque. J'aime beaucoup le Moyen-Âge, j'aime beaucoup le contemporain aussi. Et j'ai choisi, mon point de départ, c'était ces Ave Maria, puisque c'est la prière donc, la plus connue hein, à la Vierge dans la chrétienté, dans la religion catholique en tout cas. Et il se trouve qu'il y a un Ave Maria de Monteverdi, on est à la fin du XVIe siècle, mais il y a encore des compositeurs actuellement qui écrivent des Ave Maria. Jello, que nous ne chanterons pas cette fois-ci, mais dans un prochain concert, a écrit même un Ave Maria Stella. Et Britten, donc l'auteur là, dont nous chantons, pas Britten mais Kodaly, pardon, en a écrit un en 1935. Et bien sûr, le plus connu est peut-être celui de Mozart, comme Mozart est peut-être le plus connu des musiciens de ce programme. Et autour donc de la Vierge, j'ai trouvé au Moyen-Âge aussi des chants de pèlerinage, dont le fameux livre Libre Vermel de Catalogne, qui est un recueil assez étonnant. Le manuscrit est conservé d'ailleurs. Et il y a 10 chants en canon qui sont dans ce recueil, dans ce livre, et qui étaient chantés, on peut imaginer, par des pèlerins. Et j'ai voulu donc ponctuer notre programme avec ces canons qu'on entendra au début. Puis il y en a un plus long au milieu. Et on reprendra les canons pour comme chant de départ. On peut imaginer que c'était des chants qui se chantaient en se déplaçant. Voilà. Et lié à la nativité, donc la berceuse, donc j'ai inclus dans ce programme 2 berceuses. Celle de Britten, compositeur donc du XXe siècle, Sweet Was the Song, et une berceuse tout à fait contemporaine, là, de 2016, d'un auteur canadien, d'un compositeur qui s'appelle Matthew Emery.
Au niveau de la musique, comment peut-on définir une berceuse
La berceuse, c'est sans doute, ça se remarque par un rythme de balancement qui imite le balancement quand on veut endormir un enfant. Donc c'est ce qu'on appelle une mesure ternaire, qui est assez facilement reconnaissable, qui va de droite à gauche, et ce sont des chants plutôt lents. Voilà. Et dans les deux, d'ailleurs, comme c'est en anglais, il y a le lullaby, hein, le terme berceuse. Rien que le mot lullaby, c'est déjà très, très, très berceur en anglais. Et donc, c'est le point commun. Donc, j'ai inclus ces deux berceuses. Alors, maintenant, je vais peut-être parler des madrigaux. Pourquoi les madrigaux qui ne sont pas, alors là, ne sont pas directement liés à la Vierge. Les berceuses, d'ailleurs, ne sont pas non plus des chants religieux. Il n'y a que les Ave Maria qui sont vraiment, et les chants de pèlerinage qui sont vraiment associés à la religion. Mais donc les madrigaux, ce sont des chants d'amour, en fait, de la Renaissance, de la fin de la Renaissance, et qui sont d'abord surtout basés sur des poèmes. Enfin, ce sont au départ des poésies que les musiciens de la fin de la Renaissance et du début du baroque ont mis en musique, parce qu'ils voulaient vraiment trouver une osmose entre la musique et le texte. Donc, c'est des chants d'amour. Le deuxième, par exemple, qui s'appelle... Fior scoloriti, fleur fanée, fait une allusion à la Madone, mais la Madone, ça peut être la femme aimée, en fait. Donc c'est en fait cet objet d'admiration, cette femme qui me fait penser aussi à l'image de la Vierge qui est vénérée. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai introduit ces quatre madrigaux. Et pourquoi de Zoltán Kodály? Alors quel est le lien? Là, c'est encore pour faire un lien avec plusieurs époques. Ces madrigaux, ils datent donc, les textes datent du XIVe siècle, XVe siècle. Ils ont été sans doute mis en musique au début du XVIIe siècle, puisque c'est à la grande époque du madrigal. Et Zoltán Kodály, c'est un compositeur hongrois du XXe siècle, a repris les mélodies, sans doute de cette époque-là, et les a harmonisées, c'est-à-dire qu'il a écrit d'autres voix, mais avec son style à lui. Donc ça fait vraiment un mélange entre l'ancien et le moderne. Et
vous connaissez la différence? Vous avez pu vous rendre compte de la différence entre les deux?
Oui, d'ailleurs, je suppose que la ligne supérieure, la voix donc de supérieure, chante une mélodie d'origine et qui, quand elle est chantée, tout à fait, est assez tonale, assez, comment dire, il n'y a pas une mélodie assez fluide. Et dès qu'on écoute, on met les autres voix, on a par moments des dissonances, des voix qui semblent se contredire. Et c'est ça qui est intéressant et qui fait la signature d'une écriture plus moderne. Voilà. Par contre, Kodály a gardé la tradition du XVIe siècle de faire des canons entre les voix, des imitations, et qui est vraiment particulier aussi à l'époque de la fin de la Renaissance.
Cet auteur aussi, Benjamin Britten, c'est un peu plus connu aussi.
Oui.
Par contre, Emery, c'est un compositeur de quelle époque?
Il est tout à fait contemporain. Il est né en 1990.
Donc, très jeune.
Tout jeune, voilà. Et il y a beaucoup de compositeurs plutôt américains et canadiens qui écrivent en ce moment, comme Jello. Lui, il est norvégien d'origine, mais il vit aux États-Unis. Et ils écrivent en fait une musique pour les chœurs. Il y a un peu un renouveau de musique chorale avec des sonorités soit jazzy pour certains, soit comme pour Emery, on entendra aussi des petites dissonances, mais c'est pas de la musique avant-gardiste, on va dire, mais c'est une musique quand même qui est très agréable, très accessible à l'écoute.
Et donc, ces auteurs, aujourd'hui, ont-ils encore une inspiration pour le chant religieux? Est-ce qu'il y a toujours cette inspiration?
Oui.
Mais peut-être qu'ils vont à la découverte d'autres univers également dans la création musicale?
Oui, alors ça peut être donc l'inspiration du texte, hein, du texte religieux. Ou si je reprends l'exemple de l'Ave Marie Stella, de Jello... Je crois que ça lui a été inspiré par un paysage du nord aussi, de la Baltique. Enfin. Et l'inspiration peut être aussi du folklore. Ça peut être une inspiration d'un folklore de sa propre région d'origine ou d'une autre partie du monde. Il y a, avec peut-être le bon côté de la mondialisation, une sorte de métissage entre les musiques, entre les styles, qu'on retrouve même, je pense, dans la musique actuelle, hein, dans la musique plus, plus populaire.
Justement, le chant religieux, quelle place a-t-il aujourd'hui, que ce soit au sein des églises, mais aussi auprès du public? Est-ce qu'il y a un grand intérêt toujours existant pour ce type de création?
Alors, je pense qu'il faut distinguer le chant vraiment liturgique qui est chanté dans les églises par les croyants. Et il y a un répertoire d'ailleurs qui est écrit plus moderne. On peut reprendre des chants.
Ce que je voulais dire, c'est que parfois il y a des concerts organisés dans des édifices religieux, comme ça peut s'opérer à Die avec des propositions de Mozart ou de Bach, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a toujours cette ferveur du public pour cet
art? Je pense que, personnellement, je pense qu'on peut ne pas être croyant ou pratiquant et être touché par de la musique religieuse. Je pense que c'est, d'une manière plus générale, ça touche le cœur, ça touche l'âme ou l'esprit, si on ne veut pas parler d'âme. Et je pense que, quelle que soit sa croyance, la musique est faite pour émouvoir et pour toucher. Et souvent, d'ailleurs, dans un édifice religieux, il y a aussi la résonance, le lieu qui aide à cette communion.
Au-delà de ces auteurs qui se seront proposés, ces compositeurs proposés, est-ce qu'il y en a d'autres qui vous tentent également dans ce qui se fait aujourd'hui, par exemple, et que vous souhaiteriez peut-être découvrir ou travailler?
Je voudrais approfondir justement ces nouveaux compositeurs un peu de la génération d'Emerine, qui écrivent maintenant pour les chœurs.
Par exemple, à mon idée, il y a Arvo Pärt.
Qui est déjà plus ancien.
Génération précédente.
Mais il a beaucoup influencé justement les jeunes compositeurs actuels, en tout cas ceux de l'Europe du Nord. D'ailleurs, j'ai participé il y a 3 semaines à un concert, peut-être que vous l'avez annoncé, sur Escale dans le Nord. C'était un concert dans un chœur mixte dirigé par Eliette Roche, qui avait choisi un répertoire, qui est spécialiste aussi du répertoire du contemporain. Et nous avons chanté que des chants de ces compositeurs du Nord et beaucoup de chants religieux. Et beaucoup se réclamaient d'Arvo Pärt, justement.
Il s'agissait de All Life Long de Kelly Malone, compositrice et organiste américaine. On peut parler aussi de l'embellie, hein, ce chœur féminin, donc, que vous dirigez en tant que chef de chœur.
Oui.
Compositrice également.
Non, ça juste ne m'a jamais été inspirée.
Voilà, vous interprétez, vous réinterprétez des œuvres musicales, vous les adaptez donc avec le chœur.
Enfin, je les adapte, j'essaye de... Non, je ne suis pas arrangeuse non plus, j'interprète simplement.
Vous avez cette oreille quand même pour guider le chœur.
Bien sûr, après je lis des partitions et nous chantons des partitions, donc j'essaye de respecter ce que les compositeurs ont écrit. Après, chaque chef d'orchestre ou de chœur a sa propre... À chaque fois qu'on transmet, on a forcément une interprétation personnelle, comme un pianiste qui joue sur un piano une œuvre... déjà écrite.
Donc un chœur de 9 chanteuses avec vous.
Oui, voilà, en fait 8 plus moi. Des chanteuses qui ont chanté dans diverses chorales, qui ont quand même une pratique de la chorale.
Par exemple, vous parliez de 3 voix. Donc vous pouvez peut-être présenter également des récitals avec une formation réduite en fonction des compositions ou alors...
Il peut y avoir des solos, par exemple, vous verrez dans un de ces chants, un chant traditionnel, plus traditionnel, les voix vont se répondre. Donc j'ai fait en sorte que chacune pouvait aussi chanter seule ou à deux. Mais c'est vrai que nous sommes un petit ensemble et d'ailleurs je fais un appel aussi, si des personnes, des femmes donc, sont intéressées pour venir nous rejoindre, j'aimerais étoffer le chœur parce que nous sommes quand même des amateurs et c'est beaucoup plus difficile de chanter en étant moins nombreux. Quoi.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Le chœur féminin, pour vous, c'est une évidence, mais est-ce que vous opteriez aussi peut-être de diriger un chœur masculin ?
Oui, il n'y a pas de souci.
Et ce que vous faites peut-être en ce moment
non,
que vous avez déjà pratiqué ?
Non, j'ai dirigé un chœur mixte déjà. Plusieurs chœurs mixtes, mais pas de chœur uniquement masculin, mais pourquoi pas.
Et pour cet ensemble féminin, l'embellie, comme vous le dites, vous êtes à la recherche de voix, donc avec des spécificités peut-être
Non, enfin des voix c'est... plutôt. Alors je cherche des voix aiguës là, pour la saison prochaine, plutôt des sopranos. Et des personnes peut-être ayant quand même une petite pratique de la partition, puisque même si. J'apprends par l'imitation, c'est-à-dire je chante et les personnes répètent ce qu'elles entendent, mais la partition, je pense, est un guide quand même. Et je pense que tout le monde peut suivre une partition, c'est un peu ma
d'ailleurs,
démarche.
Pardon. D'ailleurs, l'embellie, cette formation, vous vous retrouvez régulièrement pour travailler, améliorer
Oui.
Évoluer donc.
Oui, c'est une répétition hebdomadaire hein, de 2 heures. Voilà, 2 heures, 2 heures et demie. Je pense que c'est indispensable d'avoir une régularité dans l'apprentissage.
Avec une disponibilité plutôt en fin d'après-midi ou
bah là, actuellement, nous sommes disponibles le lundi après-midi, donc ça convenait à tout le monde, mais on peut très bien adapter les horaires, il n'y a pas de problème.
Et puis, cette formation est née en 2022. Quel était ce désir de ce répertoire de polyphonie, par exemple
L'an dernier, par exemple, nous avons fait des polyphonies, mais sur le thème de la nature, et c'était plutôt de la musique, on dit profane, hein, qui n'est pas sacrée. Et c'était l'idée de réunir, voilà, plutôt des. Il y a beaucoup d'amis hein, autour de moi, donc des amis qui avaient envie de chanter.
Et ces rencontres avec ce chœur et le public peuvent s'opérer dans divers endroits. Bon, il peut y avoir des salles qui s'y prêtent, mais vous parliez aussi de ce rendez-vous en extérieur. Il y a une possibilité pour vous de vous adapter et peut-être de travailler le chœur en fonction du lieu
Bien
également.
Sûr. Enfin, en extérieur, en fait, je pense pas l'avoir évoqué là, mais on a chanté l'an dernier au Vieux Montmort. donc dans l'église, mais qui n'a pas de toit, je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, on s'est adapté au lieu, en effet, on a plutôt cherché un lieu contre un mur, de manière à ce que le son ne s'éparpille pas, mais c'est tout à fait possible de s'adapter à un lieu, bien sûr.
Il y a donc ces compositeurs, c'est du cappella. Il n'y a pas d'accompagnement musical d'instrument.
Si, alors il peut y avoir du piano.
Donc, là, pour cette occasion, il y aura
un piano. Il y aura, parce que Mozart, l'Ave Maria de Mozart, et a été composé avec piano, orgue à l'origine, mais on peut le jouer au piano. Voilà, donc c'est, et puis il peut y avoir un peu de percussion de temps en temps.
Pour vous, le fait de pouvoir se présenter, par exemple, au temple de Poney, c'est un bienfait pour l'expression également.
Moi, je trouve que partout où on nous accueille, comme j'annonce déjà qu'il y aura le même concert à Boulk, hein, le 24 juillet, à l'église, je pense que ça apporte donc une animation dans des villages, surtout Boulk, qui est quand même beaucoup plus éloigné, dans une vallée un peu plus lointaine. Et ça participe, je pense, de la vie locale. Et c'est important, oui, de transporter la musique dans divers lieux, couvrir.
Qu'est-ce qui vous retient dans une composition, à l'écoute? Qu'est-ce qui vous émeut pour la travailler ensuite?
En effet, comme vous dites, il faut que cette musique m'émeuve. C'est des rencontres de sonorité, d'harmonie, des accords qui vont particulièrement être beaux pour moi.
Riche en émotions.
Riche, qui produisent beaucoup d'émotions. C'est vrai que je ne peux pas faire apprendre ou diriger une œuvre qui ne me touche pas.
Effectivement, on peut peut-être avoir quelques fois la larme à l'œil. Ça peut vous arriver aussi par rapport à une espèce de paroxysme d'une composition, je ne dirais pas parfaite, mais qui touche.
Qui touche, oui, bien sûr. Ou avant, oui, la larme à l'œil, mais je dirais plutôt... le sourire, le plaisir.
C'est pas une larme triste, c'est une larme de joie en quelque sorte.
De joie, bien sûr.
Ce nom de l'embellie signifie quoi?
Oui, surtout l'embellie, quand on le lit, jusqu'à la radio, ça se lit pas. C'est l'embellie avec un A et non pas le E. J'ai voulu faire un jeu de mots entre l'embellie au sens premier propre avec le E qui est une éclaircie, puisque la création de ce cœur correspond à une embellie pour moi personnellement. Et embellie, comme j'ai pensé, bien sûr, comme je randonne beaucoup au plateau d'Ambel dans le Diwa, et donc j'ai fait un jeu de mots entre Ambel et embellie.
Tout simplement.
Tout simplement, il faut y penser.
Et puis, pour savoir un peu plus, vous avez un site internet ou un lien qu'on pourrait découvrir?
Non, pas encore.
Et pour vous contacter, oui. Pour les personnes qui souhaiteraient... vous vous présentez en public, c'est un moyen aussi peut-être d'aller à la rencontre de futurs chanteurs pour vous. Mais est-ce qu'il y a des ouvertures qui permettent une approche auprès de vous pour essayer de faire partie de ce cœur?
Peut-être que, je ne sais pas si Radio Diwa peut éventuellement être contactée. Je ne veux pas vous surcharger, mais communiquer mon mail pour me contacter.
Et pour toute information, on peut passer par Francis Durier.
Aussi. Et sinon, pour Boulk, c'est le comité des fêtes de Boulk, de la mairie de Boulk.
Pour terminer cette émission, je vous avais demandé si vous aviez peut-être un morceau à proposer.
Je ferais bien écouter justement un des canons du livre Vermeil de Montserrat.
Eh bien, Armel Babin, merci beaucoup d'être venu sur Air Diwa pour nous annoncer donc ce concert qui aura lieu le 24 mai au temple de Poney, donc avec l'ensemble féminin, l'embellie, avec comme thème les chants autour de la Vierge Marie du Moyen-Âge à nos jours. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, bonne soirée à vous également.
Au revoir.
Au revoir.
Thank you. vivre.